Merci, Seigneur. Et si on se levait ensemble là, pendant quelques instants, j'aimerais ça vous apprendre un nouveau chant, a cappella, pas de musique. Très simple. Mais c'est un vieux chant que j'ai emmené il y a plusieurs années à l'Église du Abondante. Peut-être certains d'entre vous, vous allez le reconnaître. Mais juste, c'est la même phrase et ça se chante comme suit. J'ai soif de Dieu et de sa présence, tout simplement. J'ai soif de Dieu et de sa présence. 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 Encore une fois, j'ai soif de Dieu et de sa présence. 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 Seigneur, nous avons faim et soif de ta présence, c'est-à-dire que nous voulons vraiment pouvoir te rencontrer face à face. Partout dans les Écritures, dans la Bible, on voit que des hommes et des femmes ont eu ce privilège de pouvoir avoir un contact direct avec toi, que tu puisses parler à leur cœur et, Seigneur, eux, en retour, te communiquer aussi ce qu'ils avaient dans leur cœur. Il y avait vraiment un échange qui était là. Et nous prions ce matin de tout notre cœur. Viens nous rencontrer dans ces instants. Merci pour la louange où nous sommes venus vers toi pour t'offrir un bouquet de louanges. Mais maintenant, on veut simplement se placer à ton écoute, au travers du message, entendre ta voix. Seigneur, je prie que tu puisses me donner ta grâce, que je puisse m'effacer et que Christ puisse prendre la place. Que les gens, lorsqu'ils vont sortir de ce lieu, ne puissent pas dire « Ah, le pasteur est intéressant », mais que les gens puissent dire « Il y a quelque chose qui m'attire à connaître Jésus davantage. » Et ce quelque chose-là, c'est ton esprit qui attire les hommes à Christ. Seigneur, nous prions que dans ces prochains instants, ton esprit puisse nous parler dans le nom de Jésus. Et tout le monde, amen. Tout le monde qui est d'accord, dis un grand et fort amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce privilège que j'ai de pouvoir être devant mes frères et sœurs ce matin. Lundi dernier, on a eu l'occasion d'avoir une rencontre de leadership à l'Église Vie Abondante. Tous les leaders de l'Église ont été convoqués à une journée. On s'est retrouvés à l'espace Vie Abondante, que je faisais référence tantôt. Et j'ai partagé plusieurs choses dans mon cœur lors de cette journée. Des choses qui m'excitaient, des choses par rapport au futur où on se dirige en tant qu'Église. Et puis, j'aimerais simplement vous partager quelques-unes des choses que j'ai partagées avec eux, mais très courtement en commençant ce message. J'ai fait référence lundi dernier au fait que l'année dernière, à pareille date, au mois de septembre en 2009, j'avais fait part de nos objectifs pour l'année 2009-2010. Et j'ai fait un rapport de ces objectifs-là à l'équipe de leadership lundi dernier. J'aimerais juste vous faire un rapport également rapidement. Mais voici quels étaient nos objectifs pour l'année dernière. On avait, je m'excuse pour ceux qui sont en arrière, peut-être c'était un petit peu petit, mais il y avait tellement d'objectifs que j'ai dû les mettre toutes sur une page. Donc, premièrement, on voulait élaborer le plan d'action, un plan d'action d'ici janvier 2010. C'était l'objectif de l'année dernière. Et puis, on voulait vraiment mettre en place un plan d'action très concret, très intentionnel pour les 5 prochaines années, à savoir qu'est-ce qu'on cherche à accomplir en tant qu'Église évangélique. Et puis, on a mis ça en place au courant de l'année. On a élaboré ce plan d'action. Et puis, après ça, il y avait d'autres objectifs. On a voulu créer un environnement de prière à l'Église Vie Abondante, ce qui a été le cas. Entre autres, un des éléments qui a fait en sorte qu'on a augmenté le niveau de prière, c'est vraiment la mise en place des groupes de croissance en 2009-2010. Les groupes de croissance, qu'est-ce que c'est pour ceux et celles qui sont ici pour la première fois? Groupe de croissance, comme on dit souvent à l'Église Abondante, le dimanche matin, c'est là où on vous intéresse à l'Évangile, à Jésus. Mais les groupes de croissance, c'est là où on s'intéresse à vous. C'est des petits groupes qui se rencontrent en semaine dans les maisons à travers la ville, même sur la rive sud, et qui font simplement partager à partir du message, partager ensemble ce qu'ils ont touché, ce que Dieu fait dans leur vie, etc. Et je vais avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus loin dans le courant de mon message, de qu'est-ce que Dieu fait dans ces groupes de croissance-là. Vous savez, le dimanche matin, il y a une chose de particulier. Toutes les chaises sont dirigées dans une direction, vers le pasteur. Vous remarquez même que les sections sur les côtés ont des angles pour regarder vers moi. Et quelqu'un a déjà dit que l'Église, la vraie Église, c'est lorsque les chaises se font face. Lorsque les frères et sœurs se parlent, échangent ensemble, prient ensemble et se parlent, se supportent les uns les autres, s'aiment les uns les autres, etc. Les groupes de croissance, c'est là où on met les chaises face à face et où on apprend à se connaître, on développe les relations, on réagit au message, qu'est-ce qui nous a touché, qu'est-ce qui nous a dérangé, qu'est-ce qui nous a secoué, etc. Donc, on vous encourage à faire partie des groupes de croissance. Mais l'année dernière, notre objectif, c'était de les mettre en place. Un autre objectif qu'on avait l'année dernière, c'était de consolider le ministère et l'équipe de l'éducation chrétienne au niveau des enfants. Comme vous pouvez savoir, Bertha a été engagée depuis ce temps-là, notre sœur Bertha que vous avez entendue tantôt, et on a vraiment consolidé le ministère. Après ça, on voulait améliorer l'intégration des nouveaux, des nouvelles personnes qui s'intègrent à l'Église abondante. On a voulu aussi revoir la notion de membership. On a voulu mettre sur pied une équipe de développement de la formation. On voulait définir une philosophie éducative de l'éducation chrétienne au sein de l'EVA. Si vous ne comprenez pas tout, c'est correct. C'est juste pour donner une idée de ce qu'on cherchait à faire l'année dernière. Et je n'ai pas le temps de tout expliquer. Réfléchir à la mise en place de la formation de disciples à l'Église abondante et aussi une possibilité de voir un partenariat avec une église de l'Ouest prendre place en cours d'année. Et finalement, louer nos quartiers généraux un espace élargi. Ça, c'est nos objectifs qu'on s'est donnés en 2009. Et j'étais excité de pouvoir partager à tous les leaders qui étaient présents que la réalité est celle-ci, c'est que 7 objectifs sur 10 ont été rencontrés. Et on rend grâce au Seigneur à la fois pour ce que Dieu a fait et en même temps pour tout ce que l'équipe a pu faire, tout ce que les gens ici à l'Église du Abondance avaient pu accomplir. On a effectivement élaboré le plan d'action, on sait exactement où on s'en va, c'est très clair dans notre esprit. On a créé un environnement de prière, il y a eu de plus en plus de prières qui s'est installée à l'Église du Abondante et on cherche que ce soit plus encore que ça. Il y a les groupes de croissance qui ont été lancés en janvier 2010. Il y a l'éducation chrétienne, effectivement, comme je disais tantôt avec Bertha, qui a pris place. On a tout revu la question aussi du membership qui est en cours de travail. Là, c'est un comité ad hoc qui est penché sur cette question-là, mais qui va être finalisé normalement ce mois-ci. On a vu un partenariat qui s'est installé avec une église de l'Ouest qui reste aussi à concrétiser au niveau des détails. Puis on a loué nos quartiers généraux, c'est-à-dire que l'espace élargi, on s'est installé, on a déménagé en mars dernier. Donc, on rend grâce au Seigneur pour tout le chemin parcouru en 2009-2010. Et j'aimerais vous dire que c'est grâce à ce que le Seigneur a fait, mais c'est grâce aussi à toute l'équipe de la famille de l'Église abondante. Et j'aimerais juste vous remercier à tous ceux et celles qui se sont impliqués, qui ont travaillé, qui ont bossé dur, qui ont fait des sacrifices pour que ces objectifs soient atteints. Juste merci de la part de l'Église abondante. Et on regarde maintenant que cette année est terminée, on veut se tourner vers la nouvelle année, puis on se dit, Seigneur, on est prêt pour aller et faire ce que tu nous demandes de faire en cette nouvelle année 2010-2011. Et puis, laissez-moi vous dire, il y a encore du pain sur la planche, mais on est excité dans notre esprit parce qu'on sent que Dieu, c'est vraiment la direction que Dieu nous donne pour cette nouvelle année. Donc, merci Seigneur. C'est bon, hein? De pouvoir voir ce que Dieu fait en cours d'année et qu'il nous dirige. Vous savez, les évangiles nous parlent beaucoup des interactions entre Jésus et ses 12 apôtres. Pour n'importe qui ici dans ce lieu qui a moindrement lu la Bible, les évangiles, vous voyez que Jésus avait beaucoup d'interactions avec les 12 apôtres. Parfois même, on peut avoir l'impression que les 12 ont été, en quelque sorte, une élite spéciale des favoris de Jésus. Personnellement, je ne crois plus au fait que Jésus fait du favoritisme. C'est peut-être la raison qui explique pourquoi je suis si excité d'entendre les histoires de ce que Jésus fait dans les personnes moins populaires, moins en vue. C'est bien le fun d'être sur l'estrade le dimanche matin, vous entendez un pasteur vous parler, un jeune pasteur, et puis moi je peux souvent vous partager ce que moi je vis ou ce que j'entends un petit peu parler, mais pour moi ce qui m'excite le plus, c'est pas nécessairement ce qui se passe dans ma vie, bien que ça m'excite beaucoup, vous allez voir dans les prochains instants, mais ce qui m'excite le plus, c'est d'entendre ce que Dieu fait dans vos vies. Ce que Dieu fait, dernièrement j'ai entendu dire ce que Dieu fait avec un enfant de 9 ans, à l'Église abondante. des choses que je n'avais jamais entendues et des choses que Dieu fait de façon extraordinaire. Ce que Dieu fait dans les couples, ce que Dieu fait dans la vie, les révélations que les gens reçoivent, comment Dieu utilise des gens simples, des gens qui sont même des fois intimidés et que Dieu leur donne une parole pour une autre personne pour l'encourager. Je suis tellement excité de voir ce que Dieu fait à l'Église Vie Abondante. Je suis particulièrement excité par ceux qui ne sont pas sur l'estrade. Parce que je trouve qu'on a trop d'attention en étant sur l'estrade, quant à moi. Mais je vis bien avec, c'est correct, mais ce n'est pas quelque chose que je cherche. Et souvent, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, si tu veux que je nettoie les toilettes le dimanche matin, ça va me faire plaisir. » Mais le Seigneur semble dire, « Ta place est là pour l'instant, fait que j'accepte cette place-là pour l'instant. » Pardon? Les toilettes, ça viendra? Pas de problème. J'ai souvent aspiré à autre chose. C'était-tu une parole de prophétie, ça, là? Ouais? Parce que d'habitude, j'ai l'habitude de prendre en note les paroles de prophétie, là, fait que... 12 septembre 2010, Yves a dit... Quelqu'un a un crayon, ici? Mais ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est... qu'on puisse s'arrêter et voir ce que Dieu a fait et ce qu'ont vécu deux disciples, en fait, de Jésus, qui nous sont pratiquement inconnus. Qui ne sont pas deux des 12, les fameux 12, mais deux juste inconnus, qu'on ne connaît pratiquement pas. On a un seul détail sur ces deux disciples-là que vous allez voir, on va le lire ensemble. Donc, on va lire le passage ensemble et je vais apporter certains commentaires au fur et à mesure que l'histoire va se dérouler sous nos yeux. Tournez avec moi dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, c'est le troisième évangile, Matthieu, Marc, Luc. Et comme j'aime le dire, pour ceux qui ont la Bible ointe du Saint-Esprit, la vraie de vraie, là, c'est dans la page, attendez, c'est 1181. Si vous n'avez pas ce numéro de page-là à Luc 24, c'est que vous avez vraiment un problème. Il faudrait se parler après la réunion. C'est une blague. Il y a toutes sortes de traductions. Et ce n'est pas vrai que je crois que ma Bible est plus particulière. Si vous êtes là, vous pouvez dire, je suis rendu. Go! On est prêt? Pour ceux et celles qui n'ont pas de Bible ce matin, vous allez pouvoir suivre aussi à l'écran avec nous. Donc, Luc, chapitre 24, verset 13 à 15. Pas à 15, mais comme j'ai dit, on va voir l'histoire se dérouler au fur et à mesure. Je vais commenter au fur et à mesure. Et voici ce même jour. Deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est-à-dire environ 11 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Ici, le contexte est très clair et très simple. Jésus vient de mourir sur la croix à Golgotha, et puis on est maintenant... trois jours plus tard, et les disciples qui marchent sont en train de se diriger vers un village pas loin de Jérusalem, et sont en train de discuter de ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est-à-dire la mort de Jésus, le fait qu'il est mort sur une croix, et tout, ils sont en train de partager leur déception. Ils pensaient que Jésus était pour être le Messie, qui était pour les délivrer de l'emprise du gouvernement romain, qui était l'autorité politique à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, ses disciples sont en train de partager ensemble et Jésus vient à leur rencontre. Jésus qui avait été, n'oubliez pas, qui était mort sur la croix, Jésus vient à leur rencontre. Et Jésus, ce qui me marque, c'est qu'alors que les deux disciples sont là, en train de marcher le 11 kilomètres, environ 11 kilomètres, pour se rendre jusqu'au village d'Emmaüs, ça nous dit qu'ils étaient en train de parler, de discuter, ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Et je peux imaginer, pendant quelques instants, juste lorsque je m'arrête, je peux imaginer la confusion qu'il y avait, toute l'incompréhension. Et j'aurais tendance à appeler ce chemin de 11 kilomètres jusqu'à Emmaüs le chemin de leur incompréhension. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et Jésus est venu les rejoindre sur leur chemin de l'incompréhension, alors qu'ils ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Et ça, c'est un des aspects que j'aime de Jésus. C'est lui qui vient nous rejoindre là où on est. Même, comme on va le voir ce matin, on va le voir que quand Jésus vient nous rejoindre là où on est, ce n'est pas dans le but de nous laisser là, mais c'est dans le but de nous faire progresser sur ce chemin-là, et de nous amener de l'incompréhension à la compréhension. Mais ce que j'aime, ce que je trouve excitant, c'est qu'alors que les disciples sont en train de marcher, qu'ils se posent toutes sortes de questions, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, Jésus lui-même vient marcher avec eux. Mais il y a quelque chose de particulier qui est remarquable. Écoutez bien, pour ceux qui n'ont jamais lu l'histoire, cette histoire-là, ça va vous marquer. Ça nous dit au verset 16, lorsqu'on continue l'histoire, « Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » En d'autres mots, Jésus est venu se joindre à ces deux disciples-là, mais ils n'ont pas été capables. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ils n'ont pas dit « Hey, Jésus, tu es ressuscité! Incroyable! » Non, non, c'est un homme qui est venu se joindre à eux comme si rien n'était. Puis, vous allez voir, Jésus a vraiment utilisé, je pourrais dire, une stratégie vraiment particulière. Et je me suis posé la question, juste avant d'aller plus loin, j'ai dit « Pourquoi leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître? » Est-ce que vous avez déjà posé la question? Pourquoi? Pourquoi il ne s'est pas juste présenté de façon rapide et sans équivoque et dire « C'est moi, les gars! » Pourquoi leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître? Pourquoi Jésus a joué ce jeu-là, en quelque sorte? Je pense qu'on a peut-être une piste de réflexion ou de solution à considérer. Je pense que Jésus se disait peut-être qu'il était temps pour ses disciples d'apprendre à vivre par la foi et non plus par la vue. C'est-à-dire à croire sans voir, parce qu'il savait qu'il était sur le point de les quitter pour aller vers son Père, que le Saint-Esprit était pour venir et qu'il devrait apprendre à vivre par la foi et non plus par la vue. Pendant 3 ans de temps, un peu plus de 3 ans de temps, je ne sais pas si ces deux disciples-là étaient là dès le départ, mais au moins, disons, pendant quelques années, ces deux disciples-là ont suivi Jésus partout. Ces deux disciples qui nous sont pratiquement inconnus, ils l'ont suivi partout. Ils l'ont vu marcher, ils l'ont vu manger, ils l'ont vu enseigner, faire des miracles, délivrer des démons. Incroyable, Dieu, ils ont peut-être même vu ressusciter les morts. C'était assez particulier. Et là, Jésus vient de ressusciter et il se présente à deux disciples sans leur expliquer, sans leur dire que c'est lui. Il joue le jeu de l'anonymat. Parce que je pense que le Seigneur voulait leur apprendre à vivre par la foi. Jésus voulait vraiment que ses disciples apprennent à vivre par la foi. Et peut-être que vous vous posez la question, t'es-tu sûr de ça, pasteur Benoît? Non. Quoique les propos de Jésus lui-même nous portent à croire que oui, effectivement, il désirait que ses disciples apprennent à vivre par la foi et non par la vue. On peut lire dans deux autres évangiles les versets suivants. Quelques heures plus tard, Jésus va apparaître aux 11 disciples. Pourquoi 11 et plus 12? Pour ceux qui se demandent la question, c'est que Judas a trahi Jésus et Judas n'était plus là. Judas s'était pendu, s'était suicidé. Et puis, à cause qu'il avait trahi Jésus et tout ça, donc il était rendu 11. Ça nous dit, enfin, Jésus apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et c'est après la résurrection, évidemment. Et Jésus leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. J'ai juste en train de dire ici, je vous reproche la dureté de votre cœur. Les gars, vous allez devoir apprendre à croire sans voir. Parce qu'à partir de maintenant, je m'en vais auprès du Père, vous allez devoir vivre votre vie par la foi et arrêter de croire juste quand vous voyez. Et même lorsque vous rappelez Thomas, à la première apparition, Thomas n'était pas là. On dit souvent Thomas, c'est celui qui doute. Et finalement, Thomas, lorsqu'il a vu Jésus, Jésus lui a dit ceci, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Et ça m'a toujours dérangé ce passage-là parce que je me disais, de qui le Seigneur parle quand il dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il me semble que le temps de verbe n'est pas le bon. Je pensais qu'il faisait référence à nous, en ce sens que « Heureux ceux et celles qui n'auront pas vu et qui vont croire. » Malgré le fait, en d'autres mots, nous, en 2010. « Heureux les gens de l'Église vie abondante en 2010. » Mais non, ça dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus faisait référence à ceux et celles, au moment où Jésus disait ces paroles-là, qui avaient cru à la résurrection de par le témoignage de leurs frères et leurs sœurs, et non pas parce qu'ils avaient vu. Pourquoi Jésus a dit ça? Je pense que Jésus a dit cela parce qu'il savait qu'ils avaient une longueur d'avance. Parce que dans les prochains jours, Jésus était pour partir et aller auprès de son Père, et les gens devraient apprendre à vivre par la foi. Tout comme nous, aujourd'hui, en 2010, on doit apprendre à vivre par la foi. Quels sont ceux et celles qui ont eu, et je crois que je connais une personne dans cette église, qui a eu le privilège de voir Jésus vraiment en personne? Est-ce qu'il y a des gens ici? C'est la seule personne que je connais ici. À part de ça, c'est très rare, hein? Hey, j'ai rarement entendu l'Église abondante aussi silencieuse. J'ai-tu dit quelque chose qu'il ne fallait pas, moi, là? C'est très rare. Bien que je l'entends parler régulièrement que Dieu se révèle à des musulmans, Dieu se révèle, Jésus se révèle de façon vraiment, encore de façon très évidente. Mais la majorité du temps, le Seigneur Jésus vient, non pas de façon physique, mais Jésus vient se manifester de manière vraiment plus discrète et dans nos cœurs, dans nos esprits. Et lorsqu'il a dit ça à ses disciples, Jésus est en train de dire « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Et c'est notre réalité aujourd'hui en 2010. Amen. Je crois vraiment que Jésus vient vers nous régulièrement en 2010. Je crois que Jésus vient par son esprit, mais que parfois on ne le reconnaît pas. Tout comme ces deux disciples qui marchaient sur le chemin qui menait à Emmaüs n'ont pas reconnu Jésus lorsqu'il est venu se joindre à eux. Je pense que aussi dans notre vie en 2010, le Saint-Esprit, Jésus-Christ par son Saint-Esprit vient vers nous, mais qu'on ne le reconnaît pas. On ne reconnaît pas sa voix, on ne reconnaît pas ses directives, ses incitations, ses questions, ses demandes, ses pensées. Ça passe juste inaperçu. Mais on va suivre, on va continuer ensemble et voir ce que le Seigneur a fait avec ses deux disciples. Ça nous dit au verset 17 et 18, « Jésus leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? L'un d'eux nommé Cléopas, c'est la seule information qu'on a sur les deux disciples, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Et ça me fait sourire. Les deux disciples marchent sur leur chemin de l'incompréhension. Jésus vient les rejoindre. Et là, les disciples ils marchent, puis là, ils se tournent vers Jésus, puis ils disent, « Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé à Jérusalem? » Et moi, je me mets dans la peau de Jésus pendant quelques instants. Et des fois, j'ai tendance à être un peu sarcastique parfois, mais juste bien dosé. Non? Il me semble que moi, j'aurais souri. Puis je pense un petit peu ce que Jésus a fait. Parce que Jésus, vous allez voir, dans les prochains versets, il va répondre, « Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Ils ne reconnaissent pas, mais écoutez bien ce qui s'est passé. En passant, es-tu le seul qui ne sache pas? Je pense que la réalité, c'est que Jésus était le seul à Jérusalem qui savait vraiment ce qui s'était passé. Donc, lorsqu'on marche sur le chemin de l'incompréhension, et vous savez, parfois on est un petit peu spéciaux en tant que chrétien. On vient dans la prière puis on dit au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais? » Puis on remet le Seigneur en question, puis on le pointe du doigt. « Ouais, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi? Seigneur, tu ne sais-tu pas que, tu sais pas que je vis tout ça? » Puis le Seigneur nous regarde puis il dit, « Je sais bien mieux que toi ce qui se passe, mon grand. » Comme on dit au Québec, « Calme-toi le pompon. Fais-moi confiance et marche avec moi sur le chemin de l'incompréhension et ton incompréhension va devenir la compréhension si tu marches par la foi avec moi jusqu'au bout. » Ça, on continue l'histoire. Fait que là, Jésus dit, j'imagine avec un petit sourire, dit, « Es-tu le seul qui ne sache pas ce qui s'est passé à Jérusalem? » Jésus répond, « Quoi? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort, ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Ah, il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. » Les femmes disent tout le temps la vérité, hein? « Comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. » C'est spécial à quel point les disciples, les gens qui suivaient Jésus depuis 3 ans, croyaient vraiment que c'était un prophète. Et je ne sais pas pourquoi, mais pour une raison ou pour une autre, ils n'avaient pas compris ou cru ce que Jésus lui-même leur avait annoncé lorsqu'il était vivant, avant de mourir sur une croix. Il leur disait très clairement, « On s'en va à Jérusalem, on va arrêter le Fils de l'homme, on va le battre, on va le mettre sur une croix, il va ressusciter le troisième jour. » Et pour une raison ou pour une autre, ils croyaient tous les enseignements, mais cet enseignement-là, pour une raison ou pour une autre, leur compréhension n'arrivait pas à saisir cette réalité-là. Et là, Jésus, ce que j'aime de Jésus, c'est sa grâce, son amour et sa patience. Alors que les disciples font part de toute leur incrédulité, qui exposent leur incrédulité, Jésus vient et là, il commence à réagir à leur incompréhension et à leurs doutes et à leur incrédulité. Et voyez avec Des fois, Jésus peut nous parler d'une manière très directe, et il le fait avec les deux disciples. Puis, soyez pas offusqués par ce qu'il va dire, c'était pas une manière de les insulter. Il va dire, Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence! » Aucun commentaire de la part des femmes ici, OK? « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entra dans sa gloire? » Écoutez ce que Jésus va faire. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jésus est en train de marcher avec deux de ses disciples inconnus. Il est en train de marcher avec eux sur leur chemin de l'incompréhension. Et Jésus vient, il commence à leur expliquer les Écritures. Ça nous dit qu'il a commencé par Moïse et par tous les prophètes. Ça veut dire que Jésus a dit « L'Ancien Testament parle de moi ». Jésus a fait référence à ce que vous avez entre vos mains le dimanche matin, et il a commencé à expliquer partout, de Moïse jusqu'aux prophètes, c'est-à-dire Moïse faisait référence au Pentateuque, le premier livre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, puis après ça, tous les prophètes, tout ce qui suit. Et Jésus va commencer à expliquer à ses disciples, va leur dire, voici ce que la Bible dit au sujet du Messie, tout ce que ça avait prophétisé. Et j'aime l'idée que Jésus est venu, malgré que ces deux disciples-là étaient incrédules en partie, qu'ils étaient dans l'incompréhension, Jésus est venu et il n'a pas été déstabilisé par leur questionnement. Il a pris le temps de leur expliquer tout ce que l'Ancien Testament disait à son sujet. Quels sont ceux et celles qui sont d'accord avec moi pour dire que c'est rassurant pour nous que lorsque nous vivons de l'incompréhension, Dieu et Jésus lui-même est concerné. Il va même vous poser des questions et il va venir vous accompagner sur votre chemin de l'incompréhension pour vous amener vers la compréhension. Jésus n'est pas déstabilisé par vos questionnements ce matin. Jésus n'a pas peur de vos questionnements ce matin. Jésus n'a pas peur de vos interrogations. Jésus n'est pas déstabilisé. Au contraire, il veut venir marcher avec vous dans vos questionnements et marcher et avancer à ce niveau-là pour vous amener de l'incompréhension à la compréhension. Ça nous dit un peu plus loin, si on continue l'histoire, versets 28-29, « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, Jésus parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et Jésus entra pour rester avec eux. Et je me suis posé la question, et ça m'a toujours intrigué depuis que je suis tout jeune, que je lis ce passage, je me pose toujours la question, pourquoi Jésus a voulu continuer son chemin? Quels sont ceux qui se sont déjà posé la question? J'ose espérer que je ne suis pas le seul qui se pose cette question-là dans ce passage-là. Pourquoi Jésus a voulu continuer son chemin? Je me suis posé la question, est-ce que c'était un test? Est-ce que Jésus voulait se faire désirer? Est-ce que Jésus était un dépendant affectif qui ressentait le besoin de se faire dire, non, reste donc ici avec nous autres, là. On a besoin de toi, là. Reste ici, là. Puis que Jésus comme, ah, OK, si vous insistez, je vais rester. Est-ce que Jésus était vraiment un dépendant affectif? Pourquoi il a voulu continuer son chemin? Une chose est certaine, je n'ai pas la réponse à ça, et la Bible ne donne pas la réponse à ça, mais une chose est certaine, et que j'ai appris avec les années, c'est que Jésus, ce n'est pas dans ses habitudes de s'imposer. Si vous vous attendez à ce qu'il y ait, vous ayez une preuve que là, que Dieu vous coince dans un coin, puis qu'il vous oblige à prendre une décision, ça n'arrivera jamais. Parce que Dieu a laissé l'homme et la femme libres. Dieu peut se révéler à vous, comme il l'a fait pour les disciples. Jésus est venu les rencontrer sur le chemin. Mais Dieu, Jésus, particulièrement, partout dans les Écritures, on voit que Jésus ne s'impose pas. Incroyable. Moi, je me mets dans la peau de Jésus, puis je pense que c'est normal que je n'ai pas été Jésus. Je n'aurais pas été capable d'être Jésus. Quand il était sur la terre, puis qu'il faisait face aux pharisiens et aux sadducéens, toute la gang, puis qui venait juste le piquer pour essayer de le faire réagir, c'était le Fils de Dieu. Moi, ça, à un moment donné, j'aurais dit, écoutez les boys, là, on va mettre les choses au clair. Non. Jésus, malgré qu'il était le Fils de Dieu, il y a des gens qui ne croyaient pas en lui, il y a des gens qui pensaient qu'ils voulaient juste l'éliminer. Puis Jésus continuait à les aimer. Puis Jésus, il ne cherchait pas à vraiment les écraser, puis à les intimider, puis à prendre son autorité pour s'élever au-dessus d'eux. Non, mais il leur partageait la vérité avec amour, avec simplicité. Wow! Jésus n'est pas du genre à s'imposer, mais il peut arriver des moments où Dieu parle très clairement quand même. Mais on a toujours un choix à faire. Je crois que Jésus désire être désiré, mais pas comme nous on l'entend. C'est-à-dire que Jésus n'est pas dépendant affectif. Il ne ressent pas le besoin de se sentir valorisé. Mais Jésus nous laisse libre de le désirer ou de l'ignorer, de l'accueillir ou de le rejeter, de l'inviter ou de le repousser, de l'estimer ou de le sous-estimer. Et ce matin encore, dans ce lieu, vous avez cette même opportunité. Vous êtes libre de désirer Jésus ou de l'ignorer, de l'accueillir ou de le rejeter, de l'inviter dans votre vie ou de le repousser, de l'estimer ou de le sous-estimer. Ça, c'est encore un choix que nous avons entre nos mains ce matin. Je reviens à ma question. Est-ce que Jésus avait vraiment l'intention de continuer son chemin? Sans que les deux disciples ne sachent jamais que finalement c'était Jésus lui-même qui avait marché avec eux? C'est une bonne question. Est-ce que Jésus, et je fais un lien avec ce que j'ai dit préalablement, est-ce que Jésus a marché avec ses disciples, avec les deux disciples, alors qu'ils ne reconnaissaient pas, il a marché avec eux, et finalement, à un certain moment donné, rendu à Emmaüs, il a voulu continuer son chemin. Est-ce qu'il était vraiment prêt à continuer son chemin sans que jamais il sache que c'était Jésus lui-même qui avait marché avec eux? Et je me dis qu'il y a des chances que oui, Jésus était prêt à le faire. Parce qu'il voulait que ses disciples apprennent à marcher par la foi et non plus par la vue. Parce que c'est la réalité avec laquelle nous vivons depuis 20 siècles maintenant. On doit apprendre à vivre par la foi et non par la vue. Mais finalement, les disciples ont insisté. Et on peut se poser la question, pourquoi ils ont insisté pour que Jésus reste avec eux? On a la réponse. Voici ce que ça nous dit au verset 30 à 32. Pendant qu'il était à table avec eux, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, Jésus le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Dans la version sommaire, ça nous dit, « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? » Et cette expression du cœur qui brûle fait référence à un intérêt marqué de la part des disciples, au fait que quand Jésus leur parlait, bien qu'ils ne savaient pas que c'était Jésus qui leur parlait, mais ce qu'ils disaient, ils ressentaient dans leur esprit que c'était la vérité. Il y avait un intérêt marqué. Il y avait un plaisir à l'entendre expliquer les Écritures. Il y avait une joie exceptionnelle, même spirituelle qui était là, à véritablement comprendre les Écritures, la Bible. Un cœur brûlant. Laissez-moi vous dire que chaque fois que Jésus parle à une personne, son cœur brûle. Son cœur brûle, pas physiquement avec du feu, comprenez-moi bien, c'est qu'il y a quelque chose, on n'est pas indifférent à l'intérieur, on sent qu'il se passe quelque chose. Notre cœur ne peut rester indifférent. C'était vrai pour les disciples qui ont connu Jésus en chair et en os, et c'est vrai pour nous aujourd'hui en 2010. Quels sont ceux et celles qui peuvent dire avec moi que vous avez déjà senti votre cœur brûler lorsque Jésus s'est manifesté à vous? De dire vraiment là, une conviction qui vient et c'est clair. La parole nous dit que les deux disciples ont tellement été excités de leur rencontre avec Jésus. Quelques instants avant, il disait à Jésus, il ne savait pas que c'était Jésus, mais il disait à Jésus, « Non, 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 continue pas ton chemin. Tu vois bien qu'il commence à faire noir, reste avec nous. Ce n'est pas une bonne chose de continuer ton chemin. » Là, d'un coup, eux autres, ils se rendent compte que c'est Jésus. Évidemment, la nuit est tombée, le soleil a continué à descendre. Et alors qu'ils réalisent que c'est Jésus qui vient de se manifester à eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent, nous dit l'Écriture, à l'heure même. Ils se lèvent, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Tellement excités, leur cœur brûlait tellement. Ils retournent vers Jérusalem, à la noirceur. Je ne sais pas comment ça s'est passé, ce retour-là, mais ça a dû être quelque chose. Et moi, pour ce qui est de ma personnalité, si j'étais retourné à Jérusalem, j'avais été un des deux disciples, j'aurais été du genre à marcher, à chercher si Jésus ne reviendrait pas, par hasard. Juste qu'on puisse encore marcher quelques kilomètres ensemble et qu'il puisse continuer à m'expliquer les Écritures. On ne sait pas comment ça s'est passé. Mais si je vous pose la question, pourquoi sont-ils retournés à Jérusalem, selon vous? Moi, je vous dirais que la réponse à cette question, c'est parce que leur cœur brûlait. Leur cœur brûlait. Et ils voulaient partager avec tout le monde leur rencontre avec Jésus et ce qu'ils avaient compris de leur discussion avec lui. Je ne sais pas s'ils ont vraiment espéré le revoir encore une fois, être rejoints encore par cet inconnu qui était Jésus. Je ne sais pas s'ils ont marché jusqu'à Jérusalem. Je ne sais pas s'ils ont couru jusqu'à Jérusalem. Mais je peux vous dire une chose. Je peux comprendre ce que ces deux disciples-là ont pu vivre. Pourquoi? Parce que les premières fois où Jésus m'a parlé, en fait, chaque fois que Jésus m'a parlé, mon cœur a brûlé. Et je peux m'identifier à ces disciples-là et dire, oh, Seigneur, chaque fois tu m'as parlé, chaque fois, tout ce que tu as fait dans ma vie, je peux juste pas m'empêcher d'arborer un sourire à chaque fois que je pense à tout ce que tu as fait dans ma vie, tout ce que tu as transformé dans ma vie, tout ce que tu m'as révélé, tout ce que tu m'as donné pour d'autres personnes, à chaque fois que mon cœur a brûlé, chaque fois que tu t'es révélé, mon cœur a brûlé. Je vous ai parlé des groupes de croissance au début de mon message, dans les objectifs de l'année dernière. Ce mercredi, on avait un groupe de croissance sur la Rive-Sud, à la maison. Et puis, on a pris le temps juste de commencer à partager ensemble par rapport au message de dimanche dernier. Et alors qu'on était en train de terminer la rencontre, j'ai juste pris ma guitare et on a commencé à louer le Seigneur ensemble. Et j'ai encouragé, il y avait deux personnes dans notre groupe qui n'étaient pas encore baptisées du Saint-Esprit. On a voulu prier pour eux et vraiment leur imposer les mains afin qu'ils puissent être baptisés du Saint-Esprit selon Acte 2. Et alors qu'on était dans la prière, dans la louange, cette ambiance-là, j'ai dit à un moment donné à nos frères et aux sœurs qui étaient là, on va juste prendre le temps d'écouter Dieu pendant quelques instants. Et juste quelques secondes. Et là, à un moment donné, le Seigneur me donne quelque chose de très simple que je partage à une des deux personnes. Et après ça, il y en avait un qui était de l'autre bord de la table. Un frère qui était de l'autre bord de la table. Et lui, je voyais qu'il commençait à fatiguer. Et là, finalement, ce frère-là a dit, il dit, il y a quelque chose qu'il faut que je partage, quelque chose qui est dans mon cœur. Puis il dit, c'est pour tel frère. Et il dit, Seigneur, me donne, je me suis battu. Il dit, j'avais juste une phrase, puis je viens d'en avoir plus, mais c'est tout ce qui vient, mais je sais que c'est pour toi. Puis il donne la phrase. Puis au moment où il donne la phrase au frère, le frère, tout de suite, les larmes viennent, la conviction du Saint-Esprit, c'était, il venait de prier par rapport au sujet de prière. Il venait de demander au Seigneur qu'il puisse répondre à sa prière, et le Seigneur venait de répondre par le biais du frère avec la réponse à sa prière. Les larmes étaient là. Même le lendemain, ce frère qui a reçu la parole encore était sous les émotions de voir à quel point Dieu avait répondu à sa prière sur le spot-là. Et j'ai parlé avec le frère qui a reçu la parole dans notre groupe de croissance. En passant, ces deux frères-là m'ont donné la permission de partager ce qui s'est passé dans notre groupe de croissance mercredi soir dernier. Et le frère qui a reçu la parole disait vraiment, ça ne me lâchait pas. C'était là. Ça ne me lâchait pas. Et j'ai l'impression que c'est justement à ça que je fais référence, quand le cœur brûle. Il y a quelque chose qui est là, ça ne vient pas de nous, mais c'est insistant, et c'est là. Puis il essayait de négocier avec le Saint-Esprit, puis il disait, « Je peux-tu en avoir un peu plus? » Il me semble une phrase, ça fait un petit peu chenu, ça fait un petit peu, « Je peux-tu en avoir un peu plus? » Finalement, c'est juste ça. Et il a donné juste cette phrase-là, et tout de suite, la conviction est venue sur le frère qui reçut la parole, et c'était la réponse à ses prières qui venait juste de prier. Le cœur des hommes et des femmes à travers le monde entier, encore aujourd'hui en 2010, brûle lorsque l'Esprit de Christ se révèle à eux. Encore l'Esprit de Christ agit. J'aimerais juste vous dire ce matin que je ne suis pas le seul. Je sais, tantôt, plusieurs personnes ont levé la main dans ce lieu, qu'ils ont déjà ressenti ce feu dans leur cœur lorsque l'Esprit de Christ l'a fait. Et chaque fois que Jésus s'est révélé à nous, frères et sœurs, notre cœur a brûlé. Et est-ce qu'on est d'accord ensemble pour dire qu'à chaque fois qu'il nous a parlé, ça nous a donné le goût de mieux le connaître. Ça nous a donné le goût qu'il puisse marcher davantage avec nous sur notre chemin de l'incompréhension. Ça nous a donné le goût qu'il se révèle plus souvent à nous. Et même, ça nous rend quelque part quasiment dépendant de lui. N'est-ce pas? À chaque fois que Dieu nous en donne une parole, donne quelque chose, après ça, on se dit, OK, c'est quand la prochaine fois? Parce que là, on a le goût, ça nous donne vraiment le goût. C'est comme si on était fait pour ça. Pour être en communion avec Dieu. Et on arrive maintenant au cœur même de ce que je veux vous partager, vous communiquer ce matin. Ça nous dit que les disciples, lorsqu'ils sont arrivés à Emmaüs, ont dit ceci. La parole nous rapporte qu'ils le pressaient, ils ont pressé Jésus en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et Jésus entra pour rester avec eux. Dans la version sommaire, ça nous dit, « Mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant, « Reste donc avec nous. » Pourquoi ont-ils tant insisté avec une vive insistance? Mais comme on vient de le voir il y a quelques instants, je pense que la raison, à ce moment-là, Ils s'en étaient pas parlé, les deux disciples ensemble. Mais à ce moment-là, leur cœur brûlait. Leur cœur brûlait. Et la seule chose qu'ils avaient le goût, c'est de dire à Jésus, sachant pas que c'était Jésus, mais ce que tu nous partages fait en sorte qu'il se passe quelque chose dans nos esprits. Reste avec nous. Continue pas ton chemin. Nos cœurs brûlent. Puis on est loin de détester ça. Au contraire, on aime pas mal ça. Reste avec nous. Tout comme les deux disciples ont pressé Jésus de rester avec eux, frères et sœurs. Tout comme ils l'ont retenu avec une vive insistance. Nous désirons inviter Jésus, ce même Jésus ressuscité, à faire brûler nos cœurs davantage en cette nouvelle année 2010-2011. On désire vraiment qu'il vienne nous parler et que nos cœurs brûlent. Pour ceux et celles qui l'ont expérimenté dans le passé, que votre cœur puisse brûler davantage. Et que pour ceux et celles qui n'ont jamais entendu la voix de l'Esprit de Christ, que vous puissiez l'entendre pour la première fois et à plusieurs reprises dans cette nouvelle année 2010-2011. Je tiens à préciser que ces deux disciples ont rencontré la personne qui est venue marcher avec eux sur ce chemin d'Emmaüs. Ce n'était pas le Jésus d'avant la crucifixion, c'était le Jésus après la crucifixion. Et c'est ce même Jésus ressuscité qui a fait brûler leur cœur et qui veut faire brûler nos cœurs en 2010-2011. Quels sont ceux et celles qui sont d'accord avec moi pour dire que moi je veux que mon cœur brûle? Seigneur, viens me parler. Seigneur, viens te révéler. Seigneur, viens faire ton œuvre dans ma vie. J'en arrive à la nouvelle thématique pour cette année 2010-2011. On rend grâce pour tout ce qui s'est passé dans les 13 premières années qu'on va célébrer d'ailleurs avec Franck Alexandre dans 2 semaines. On rend grâce au Seigneur pour tout ce qui a pris place, pour tout ce qui a été fait, toutes les paroles qui ont été dites de la part du Seigneur dans ce lieu, tous les messages qui étaient inspirés de l'Esprit de Dieu. Mais en cette nouvelle année 2010-2011, le comité et l'ELM, c'est-à-dire l'équipe de leadership ministériel à cette église. On ressent dans notre esprit que vraiment le Seigneur nous appelle à plus et que vraiment le Seigneur veut faire davantage dans notre église, que c'est le temps de passer de première vitesse en deuxième vitesse. Pas nous personnellement, mais qu'on est juste prêt pour plus. On est juste prêt pour plus en cette année 2010-2011. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui sont d'accord avec moi pour dire, Seigneur, on prie que nos cœurs puissent brûler davantage. Seigneur, on veut juste du frais, juste du vrai. Ce qu'on veut, c'est ta présence. Ce qu'on veut, on veut davantage de ta présence. Que nos cœurs brûlent, que ton Esprit Saint nous parle pour les dons spirituels, que nos cœurs puissent brûler dans nos vies spirituelles, dans nos vies de prière, dans notre église, dans nos couples, dans notre témoignage, que les œuvres du Saint-Esprit soient manifestées davantage à l'Église vie abondante. Si vous êtes d'accord avec moi, dites un fort et grand Amen. Amen. On est prêt pour plus. Et quand je dis prêt pour plus, je ne suis pas en train de parler de performer plus. Je suis en train de dire, Seigneur, on veut juste que tu viennes te révéler à nous. Viens sur nos chemins d'incompréhension. Viens nous faire progresser. Viens et que nos cœurs puissent brûler. Ce n'est pas une question de performance. C'est juste une question de venir devant le Seigneur. Et juste, Seigneur, parle-nous cette année 2010-2011. Parle-nous. On reconnaît, Seigneur, tellement notre besoin de toi. On reconnaît tellement qu'on a besoin de toi. J'aimerais vous dire, vous mentionner ce matin, il y a une grosse différence entre désirer plus de Jésus, de Dieu, et de s'attendre à plus. Et j'aimerais vous inviter en cette année 2010-2011 à ne pas désirer plus, à vous attendre à plus. C'est quoi la différence entre les deux? Lorsque vous remplissez votre rapport d'impôt et vous arrivez avec un chiffre positif à la fin, non pas négatif, mais un chiffre positif, quels sont ceux et celles qui sont dans un mode qui disent « Ah, je désirais vraiment avoir un retour d'impôt. » Le chiffre est positif à la fin. Est-ce que vous désirez un retour d'impôt ou vous vous attendez à recevoir votre retour d'impôt? Comment? On s'attend au retour d'impôt. Il y en a qui s'attendent tellement à leur retour d'impôt qu'ils dépensent l'argent avant même de l'avoir reçu. Mais parce qu'ils sont dans un mode d'attente. Ils savent que ça leur est dû, dans un sens, c'est-à-dire que c'est les chiffres, c'est ça ce qu'ils nous donnent. Et nous savons que dans les Écritures, c'est pas, il n'y a rien qui nous est dû en tant qu'enfants de Dieu. Mais en même temps, on a un héritage spirituel qui est là. Et il y a de la place pour plus. Pour tous ceux et celles qui ont l'humilité de reconnaître que ma vie pourrait être davantage et que vous réalisez qu'il y a un décalage entre les Écritures et votre vie personnelle, entre ce que les disciples ont pu vivre dans le livre des Actes et ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous réalisez qu'il y a un décalage, vous pouvez être d'accord avec moi et dire, Seigneur, je suis prêt pour plus. Seigneur, je désire que tu puisses te révéler à moi. Seigneur, oui, je vais faire ce que j'ai à faire. Je vais me mettre devant toi. Je vais peut-être élever mon niveau de prière d'un cran. Pour juste, mais pas parce que c'est méritoire, mais parce que je veux juste me mettre à ta disposition, à l'écoute de ta voix et entendre et que mon cœur puisse brûler davantage en cette année 2010-2011. Je ne crois pas que Dieu et Jésus aient appelé à être un assaisonnement à notre vie. Un petit peu de poivre, un petit peu de sel pour rendre notre plat meilleur. Je pense que Jésus et Dieu ont tout ce qu'il faut pour être le centre même de nos vies, de notre cœur, de nos cœurs, de cette Église, et qu'il a tout ce qu'il faut pour faire brûler nos cœurs davantage en 2010-2011. Seigneur, on est prêt pour plus. On veut être vraiment dans ce mode d'attente, et de pas une attente passive, une attente active. En cette année 2010-2011, êtes-vous avec moi pour dire au Seigneur, reste avec nous. Parce que quand tu es là et que tu nous parles, nos cœurs brûlent. Nos vies prennent tout leur sens. Chaque fois que tu te révèles à nous, ça a été un moment inoubliable. Il y a une partie de nous qui s'écrit, nous sommes prêts pour plus. Seigneur, on veut venir devant toi en 2010-2011 parce qu'on désire que nos cœurs brûlent davantage. Jésus, un jour, s'est levé dans le temple et l'a dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu qui ont faim et soif de plus de la présence du Seigneur dans ce lieu? Si vous êtes avec moi, faites juste dire un fort et grand Amen en terminant et on va aller maintenant devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Hallelujah. Et Simon, tu peux venir me rejoindre à ce moment-ci. Hallelujah. J'ai soif de Dieu et de sa présence. 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 Alléluia. Seigneur, on a faim et soif de ta présence. Dans les prochains instants, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose de particulier à l'Église abondante. J'aimerais qu'on puisse reculer les chaises, qu'on puisse avancer ici tout le monde ensemble. Juste comme une démonstration et une concrétisation, dire Seigneur, cette année 2010-2011, à l'Église Vie Abondante, nous avons faim et soif de toi. On a faim et soif de plus de ta présence dans nos vies, dans l'Église, que tu puisses te manifester davantage. Et on va avancer ici et ensemble, on va chercher la face de Dieu, on va crier au Seigneur, viens te manifester davantage. On a encore du temps devant nous et vraiment, on veut prendre le temps. J'aimerais qu'on puisse prier en même temps pour les besoins, de vraiment prendre le temps juste de prier pour les besoins. On va le faire ensemble aussi en même temps. Donc, avançons-nous ici, dans ce lieu, pendant qu'on le rechante. Non pas « J'ai soif de Dieu », mais on va chanter « J'ai soif de toi et de ta présence ». On va le chanter de façon personnalisée à la deuxième personne. Tous ceux et celles qui sentent déjà leur cœur qui brûle et qui veulent plus de la part du Seigneur, avançons-nous et reculons les chaises, même si ça fait un peu de bruit, c'est pas grave. Et on va juste prier ensemble. Vous avez tous à avancer en avant à ce moment-ci. Vous pouvez vous avancez-vous le plus en avant possible et on va le prendre le temps ensemble. Même en dessous des écrans, allez jusqu'au rideau. Alléluia, alléluia. Alléluia, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi et de ta présence. 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 Encore une fois, j'ai soif de toi et de ta présence. J'ai soif de toi et de ta présence. J'ai soif de toi et de ta présence.
j'ai soif de toi et de ta présence. Encore une fois, laissez-moi entendre vos voix. J'ai soif de toi. Oui, Seigneur.
Et de ta présence.
J'ai soif de toi. Et de ta présence, j'ai soif de toi. Et de ta présence, j'ai soif de toi. Et de ta présence.
Juste question de logistique, est-ce qu'on peut avancer encore plus vers les rideaux ici? Parce qu'il y a des gens qui sont partout dans l'allée qui aimeraient avancer. Juste avancez-vous, Sarah, s'il vous plaît. Jean-Paul, tout le monde, laissez la place pour que les gens puissent passer. Amen. Allez-y, allez là un petit peu plus. Merci. Alléluia. Alléluia. J'aimerais, dans les prochains instants, ce n'est pas à propos d'un homme, ce n'est pas à propos de pasteur Benoît, mais là, on s'adresse au Seigneur Jésus lui-même, qui est là, présent par son esprit. Juste dire au Seigneur, maintenant, commencez partout dans ce lieu, juste avec vos propres mots, vos propres paroles, vos propres prières, juste de parler. Imaginez Jésus, fermez les yeux pendant quelques instants, et imaginez que vous voyez Jésus là, qui est là devant vous, et faites juste partager votre cœur avec vos mots à vous. Dire, Seigneur, oui, viens, Seigneur, et j'ai tellement le goût de connaître davantage qui tu es. Partout dans ce lieu, je puisse entendre des voix qui juste s'élèvent et qui disent, Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, c'est super ce que tu as fait pour ces deux disciples sur ce chemin-là. Mais aujourd'hui, moi, en 2010, j'ai besoin que tu viennes me rencontrer sur mon chemin. J'ai besoin que tu viennes me visiter. J'ai besoin que tu viennes faire ton œuvre dans ma vie. Seigneur, viens. Seigneur, viens te révéler dans ma vie. Ce matin même, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Erasito yorokina yarabakito. Anayashito yorokita. Seigneur, j'ai tellement faim et soif de toi. Tellement faim et soif de ta présence. Seigneur, chaque fois que tu as parlé à mon cœur a brûlé. Seigneur, chaque fois que tu t'es révélé, Seigneur, ma vie n'a plus été la même. Seigneur, parle sur ma vie, comme disait Seigneur un chant. Parle sur ma vie, parce que chaque fois que tu parles sur ma vie, mon cœur change. Mon cœur change. Mes pensées changent. Seigneur, ça fait de moi un homme de plus en plus semblable à Christ. Seigneur, oh, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Oh, Seigneur, Seigneur, viens, Seigneur, même dans mes égarements que j'ignore, viens, Seigneur, me rejoindre sur ce chemin de l'incompréhension. Et viens, Seigneur, m'amener à comprendre les choses de ton esprit. Viens nous enseigner, Seigneur, à entendre ta voix davantage en 2010-2011. Seigneur, nous sommes prêts pour plus, Seigneur. Nous sommes prêts pour plus en cette année 2010 et 2011. Plus de ta présence, Seigneur, dans la mesure, Seigneur, que tu veux te révéler à nous. Seigneur, nous voulons être aussi, Seigneur, les prêts pour plus de sainteté, prêts pour plus, Seigneur, d'intimité. Père, nous savons que tu veux te révéler. Seigneur, ta parole nous dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Seigneur, c'est nous qui devons nous approcher de toi et tu t'approcheras de nous ensuite, Seigneur. On veut s'approcher de toi. On veut s'approcher de toi. On veut s'approcher de toi dans le nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et Jésus, alléluia. J'aimerais ce matin même, l'Écriture nous dit, dans Actes 2, verset 1, le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel comme un bruit, comme celui d'un vent très fort, qu'on appelle impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis en train de prier. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça, c'est quelque chose qui est dans les Écritures, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Et ça, c'est quelque chose qui est réservé aux enfants de Dieu, aux disciples de Christ. Le livre des Actes nous dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent à Christ. Et peut-être qu'il y a des gens dans ce lieu qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, qui n'ont pas vécu cette réalité-là et les langues. Et je veux prier maintenant pour vous. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse prier encore pendant quelques instants. Alors qu'on dit, Seigneur, je suis prêt pour plus. Si vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, j'aimerais que vous puissiez lui demander, dire, Seigneur, je suis prêt pour plus. Seigneur, je suis prêt pour être baptisé du Saint-Esprit. Seigneur, je veux ces langues-là. Seigneur, je veux que tu viennes me remplir de ton esprit, comme jamais auparavant. Et alors, juste avant de faire ça, j'aimerais inviter tous ceux et celles qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui parlent en d'autres langues, pendant les prochains instants, prochaines minutes, on va juste élever nos voix ensemble en langue. Et juste alors que le Saint-Esprit nous a baptisés de son feu et que les langues sont venues, j'aimerais juste qu'on puisse vraiment être à l'écoute de Dieu maintenant, en vraiment priant en langue et en vraiment se concentrant sur lui. Faisons-le maintenant. Et les autres qui ne sont pas encore baptisés, faites juste le demander et soyez à l'écoute de ce qui vient dans votre cœur. Les paroles vont venir. Vous êtes baptisés du Saint-Esprit, ça va se passer par l'intérieur. Et vous allez entendre les voix, les paroles en langue dans votre esprit. Et attendez-vous pas à ce que Jésus s'impose et que ça va sortir tout seul nécessairement. Mais vous devez juste ouvrir la bouche, commencer à le louer, à l'adorer. Et à un moment donné, des langues vont venir également. Vous allez être remplis du Saint-Esprit. Oh, comme jamais auparavant. Alléluia. Tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, j'encourage maintenant à élever vos voix en langue dans ce lieu. Oh, rabassita yaramakinto. Erabassan la yarabakito yorobassete. Ambasheko yarakita yaramania san la ye. Hanleete yarabakunu yorosita yna yarabokute. Mana yarasino yororokunu yorokita. Ena yarabakita yarabashie. Wodenaya baseto yorokita. Mana yase. Oroboki na mayarakino. Mera sino yorobokita. Amayara baba 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 sana yarabakita. Alabakino yoroboki robosa yararakina yarasa. Oh, mera yaraba baba 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 baba. Alabakino yorosito. Erabakina yarabakito yorokita. Anayabashito yorobokita. Arabakino yorobokita. Seigneur, viens remplir de ton esprit, Seigneur. Viens remplir de ton esprit. Oh Jésus. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia, alléluia, alléluia. Viens remplir du Saint-Esprit. On va prendre maintenant le temps juste maintenant de le louer en français ensemble, juste l'élever en français. Alléluia. Si les paroles commencent à monter dans votre cœur, les paroles qui sont inconnues, laissez-les sortir. Ça peut être juste une syllabe au début, mais laissez-les sortir. On va juste le louer maintenant. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Très digne de louange, nos âmes te louent, nos âmes t'adorent. Jésus, gloire et gloire à toi, Seigneur. Gloire et gloire à toi, Jésus. Nous bénissons ton nom, magnifions ta personne. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Eche, ayarabaya se, chane, oh.
Tout ce que le monde offre ne pourra satisfaire mon désir. Dans les moindres détails de la vie que je mène, je désire voir ta gloire, voir ta gloire. C'est le cri de mon cœur, voir ta gloire. Voir ta gloire, c'est le cri de mon cœur.
Tout ce que le monde,
tout ce que le monde offre, tous ses plaisirs, ne pourra satisfaire mon désir.
Le désir que te placer par ton Saint-Esprit, Seigneur.
Dans les moindres détails
de la vie que je mène.
De la vie que je mène. Je désire voir ta voir ta gloire.
Voir ta gloire,
voir ta
gloire. Voir ta gloire, Seigneur Dieu.
Voir ta gloire. Voir ta gloire.